Ça va toi aujourd'hui?
Comment ça, tu viens?
Là, je me sens bizarre.
Je sais pas, je suis
même bien, je te jure.
Ouais, j'ai encore un truc à dire.
Non, ça va pas trop.
Oh là là, je me sens bizarre.
Non, c'est comme je suis en train de raconter.
J'ai encore un truc à dire.
Qu'est-ce qui se passe ici?
Mais qu'est-ce que ça raconte?
Bah ouais, on passe à la radio.
Silence radio. La radio des schizos, la radio des parano, la radio des gens pas réglo.
Thank you, boys.
Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur le 105.4, c'est Radio Panique. Vous pouvez également nous écouter en streaming sur le www.radiopanique.org et nous réécouter tous les deuxièmes vendredis de chaque mois à 19h. Ou simplement aussi écouter notre podcast via le site de Radio Panique. Troisième lundi du mois oblige, c'est en compagnie de l'équipe donc de Silence Radio qu'on vous propose de passer l'heure qui vient. Bonjour à toute l'équipe.
Bonjour.
Et bonjour, un spécial bonjour à Mireille qui vient de rejoindre l'équipe. Salut Mireille.
Bonjour.
Bienvenue.
Bonjour Mireille.
Et encore un bonjour à vous Nicolas Marquis, vous êtes notre invité aujourd'hui.
Bonjour.
On va discuter avec vous du développement personnel. Et oui, les êtres humains se ruent aujourd'hui dans les librairies pour acheter des livres de développement personnel et ceux-ci sont en pleine expansion. S'agit-il là d'outils qui nous aident à mettre des mots sur nos difficultés, sorte du cursus parallèle au mal-être ressenti? C'est du travail, le développement personnel, a-t-on entendu? On pourra se demander si la légèreté n'est pas évincée de cette discipline et de l'humour. Y en a-t-il dans la pratique du développement personnel? Bienvenue dans le monde du développement personnel. Pour certains, fast-food qui n'a rien en définitive de personnel. Pour d'autres, outils qui ont changé leur vie. Ce monde, à la gamme lexicale si proche du capitalisme, avec des termes d'authenticité, de réalisation de soi, de paix intérieure, participe d'une conception du sujet intériorisé dont on peut se demander si elle ne fait pas le jeu de notre système ultra-productiviste. Cette volonté de réaliser son soi ne rejoint-elle pas une autre volonté, celle d'individualiser, d'intérioriser les difficultés et ainsi de nous détourner de leur cause sociétale? En tout cas, c'est collectivement que nous nous sommes posés des questions sur le développement personnel. Et nous sommes heureux de partager avec vous, Nicolas Marquis, nos interrogations et pourquoi pas de permettre aux auditeurs et aux auditrices de se faire leur propre point de vue sur ce phénomène incontournable aujourd'hui qu'est le développement personnel. Voilà, Monsieur Marquis, Nicolas Marquis, on va commencer par une question la plus simple du monde. Voulez-vous bien vous présenter?
Ah, c'est pas si simple, mais je vais quand même faire un effort. Je m'appelle donc Nicolas Marquis, je suis prof de sociologie et de méthodologie des stats surtout à l'université Saint-Louis à Bruxelles et je consacre une bonne partie de mes recherches notamment au développement personnel dont vous avez parlé, aussi aux questions qui tournent autour de la psychiatrie, de la montée en puissance du coaching. Et si je devais résumer mes intérêts variés par une seule question, ça serait la suivante: finalement, c'est quoi vivre dans une société qui place tellement l'accent sur la notion d'autonomie individuelle? Mmh, voilà, c'est ça qui m'intéresse quelque part. Et ça suppose, c'est vrai, de se faire un petit peu l'anthropologue, non pas de peuplades lointaines, mais de nous, c'est-à-dire de moi aussi, ce qui n'est pas forcément très très facile.
Je présume que vous en parlez dans votre ouvrage, de l'autonomie individuelle. Vous pouvez peut-être dire un petit peu quel est le titre de cet ouvrage, de quoi il traite de manière un peu générale.
Oui, alors l'ouvrage en question, c'est un ouvrage qui date déjà un peu. Il a été publié en 2014 aux presses universitaires de France. Et c'est un ouvrage qui s'appelle « Du bien-être au marché du malaise, la société du développement personnel ». Alors, je ne vous cache pas que ce n'est pas moi qui ai choisi le titre, mais voilà, je vis très bien avec ce bouquin-là.
Mmh, en parlant de malaise, j'ai une question un peu indiscrète. Êtes-vous de la même famille que le marquis de Sade?
J'aimerais bien quand même avoir un ancêtre illustre, mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore trouvé vraiment de lien.
Et ce bouquin sur le développement personnel, comment l'idée vous est venue de l'écrire?
Alors, quand moi j'étais ado ou post-ado, il m'est arrivé de lire un ou deux bouquins de développement personnel. Hein. C'était des bouquins notamment d'une psychanalyste qui avait pas mal de succès, qui s'appelle Alice Miller, et qui avait écrit des ouvrages qui s'appelaient « L'avenir du drame de l'enfant doué », etc., sur les difficultés que pouvaient rencontrer les enfants qui développaient ce qu'elle appelait un faux self, c'est-à-dire qui n'étaient pas vraiment eux-mêmes, mais qui étaient plutôt ce que les autres voudraient qu'ils soient, hein, donc des enfants extrêmement sages, etc. Et il se fait que ça, je l'ai complètement oublié après un temps. Et puis, je sais pas moi, une dizaine d'années plus tard, je suis retombé à nouveau sur ces bouquins que j'avais lus une dizaine d'années plus tôt. Et ces bouquins, je les avais énormément annotés, comme s'ils avaient été en fait écrits pour moi. Et là, je me suis dit, mais comment c'est possible en fait? Comment c'est possible que cette expérience se soit produite de cette façon-là? C'est un bouquin qui a été lu par un nombre très important de personnes. Comment ça se fait que je l'ai vécu comme s'il avait été écrit pour moi? Et puis c'est là que j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel en disant, mais finalement, vous l'avez rappelé dans votre très belle intro, c'est quoi le développement personnel? Ben, c'est d'abord un phénomène à succès. On ne sait pas très bien c'est quoi ces frontières, mais on sait que dans les librairies, les rayons sont de plus en plus colonisés par des bouquins. Moi, je suis sociologue, et comme sociologue, je peux être un peu désespéré de voir que les bouquins de sociaux sont remplacés de plus en plus par des bouquins de développement personnel. Et donc, si vous voulez, la question qui s'est développée au fur et à mesure pour moi, c'était un peu la suivante. C'est quoi cette société dans laquelle, lorsque on connaît un malheur ou lorsqu'on connaît des difficultés, etc., eh bien, on en vient, en tout cas pour certains et certaines d'entre nous, on en vient à trouver normal, on en vient à trouver sensé, on en vient à trouver utile et efficace de lire des bouquins qui nous disent, mais en fait, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est travailler sur vous-même. Des bouquins qui nous disent, la solution, il ne faut pas attendre qu'elle vienne de l'extérieur. Bien sûr, vous pouvez avoir des aides, des tuteurs, etc. Mais finalement, en dernière instance, c'est vous l'acteur du changement que vous voulez voir dans le monde. Ça, c'est des phrases que tout le monde a déjà entendues.
Donc, j'ai une question personnelle par rapport à ça, justement. Est-ce que voilà, le fait que vous ayez décanté un petit peu toutes ces idées des années après, est-ce que, donc, apparemment, votre esprit a dû faire un lien avec tout ça pour qu'à un moment donné vous vous dites bah oui voilà ça me parle à moi-même, donc ça veut dire qu'il y avait eu peut-être un événement qui vous a fait tilt, et est-ce que ça vous a vous-même aidé justement dans votre vie personnelle ou votre vie professionnelle justement en fait
C'est une très bonne question. En fait, si je regarde en arrière, j'ai pas l'impression d'avoir eu un événement, pour utiliser un langage qu'on utilise souvent à l'heure actuelle, un événement traumatique qui tout à coup m'aurait fait basculer de l'autre côté du miroir. Mais je veux dire, je crois que j'étais un ado assez banal, avec quelques problèmes familiaux, avec aussi une sorte de sentiment de malaise et de mal-être, etc. Et je trouvais là, je pense, dans ce bouquin, quand je dis je pense, c'est parce que je fais référence à ce que j'avais annoté dans la marge, quelqu'un que je connaissais pas, mais qui arrivait à dire sur moi ce que moi j'arrivais pas à dire sur moi, vous voyez. Et donc j'avais en quelque sorte le sentiment d'être un peu transcendé. Oh, quelqu'un me connaît mieux que moi, quelqu'un me dit en fait ça va aller, d'autres personnes que toi vivent ce genre de choses-là. Et donc quelque part, je pense qu'à cette époque-là, ouais, j'avais peut-être été aidé par ce genre de choses. Maintenant, c'est vrai que mon avis aujourd'hui sur le développement personnel, c'est probablement plus le même, effectivement.
Le développement personnel, c'est, on nous dit de travailler sur nous, mais ça veut dire quoi, travailler? Est-ce que ça veut dire prendre conscience de certaines choses? Est-ce que ça veut dire mettre en place, je sais pas, c'est parce que travailler, ça veut dire beaucoup de choses, et puis travailler sur soi, bah, qu'est-ce que ça veut dire en fait, c'est ça?
Vous avez tout à fait raison, c'est une excellente question. En fait, tous les mots sont un peu bizarres dans cette phrase qu'on n'arrête pas de répéter. Travailler sur soi.
Alors, c'est quoi le soi? C'est quoi un soi qui travaille sur soi? Est-ce qu'on est vraiment deux personnes comme ça, dont l'une qui est le travailleur et l'autre qui est l'objet? Et puis, est-ce que c'est vraiment du travail, cette histoire? Et puis, finalement, concrètement, à quoi est-ce que ça doit ressembler? En fait, le développement personnel, on en parlera peut-être après, c'est quelque chose qui a une très longue histoire. Hein. On peut retracer l'histoire du développement personnel au moins jusqu'au 18e, 19e siècle. Et en fait, quand on regarde un petit peu cette histoire et quand on regarde les livres qui ont été écrits tout au long de cette histoire, et je ne lis pas de façon critique par rapport au développement personnel, mais je voudrais quand même dire ceci, c'est que ça se répète vachement. Ça se répète vachement. En fait, il y a une série de phrases qu'on trouve, qu'on retrouve et qu'on semble redécouvrir. Alors parfois, à l'heure actuelle, avec le vocabulaire des neurosciences, auparavant, c'était plutôt avec le vocabulaire du New Age, de la psycho, etc. Mais finalement, il n'y a pas grand-chose de neuf ni de forcément très concret là-dedans.
Est-ce qu'on peut faire peut-être un petit point pour les auditeurs en se demandant qu'est-ce qu'il y a dans ces bouquins de développement personnel? Parce que je crois qu'il y a du témoignage, mais il y a aussi des outils peut-être plus théoriques.
Alors, le problème, c'est que le développement personnel, en fait, c'est pas un genre littéraire qui a des frontières très, très fixes. Ça veut dire que dans le développement personnel, ben, vous pouvez avoir des témoignages, vous pouvez avoir des fictions, ou vous pouvez avoir des bouquins extrêmement pratico-pratiques qui vous disent comment vous devez vous comporter au travail, comment vous devez vous lever le matin, etc., etc. Et donc, vous avez absolument de tout. Et ça, je pense que ça répond à des attentes différentes de la part de lecteurs. Certains qui diront, moi, ce que je veux, c'est qu'on me dise concrètement comment est-ce que je dois organiser ma journée, comment est-ce que je dois arriver à mettre mes enfants au lit, et d'autres qui sont plutôt sensibles à des récits un peu New Age, des quatre accords Toltec.
Il peut y avoir de la spiritualité comme il peut ne pas y en avoir dans les bouquins de développement personnel.
Ah oui, tout à fait. Vous avez des bouquins qui mobilisent le bouddhisme, alors à la sauce européanisée, etc. Mais vous avez d'autres bouquins, principalement issus du monde américain, qui vous présentent le monde comme étant une jungle dans laquelle il y a des gagnants et il y a des perdants. Et si vous voulez être un gagnant, eh bien voilà les sept clés pour reprendre le terme d'un bouquin à succès, les sept clés que mobilisent les personnes qui réussissent tout ce qu'elles entreprennent. Donc ça, c'est du lourd.
Est-ce que c'est pas là que ça devient, que ça deviendrait en tout cas pour moi insupportable, parce qu'à ce moment-là, on me dicte ce que je dois faire.
Bien sûr, je pense que quelque chose qui est très compliqué dans la société dans laquelle on est, c'est que cette société dans laquelle on promeut l'autonomie, c'est que à la fois on nous dit de travailler sur nous-mêmes, mais en même temps, on nous dit aussi que personne d'autre n'a le droit de dire ce qui est bon pour nous. Mais en fait, lire un bouquin, c'est pas vous qui l'avez écrit, ce bouquin. Et donc ce bouquin, il vous dit des choses sur ce que vous devez considérer comme étant ce qui est bon pour nous. Donc il y a une sorte de contradiction à la base du développement personnel. Vous savez, en anglais, le meilleur terme pour traduire le développement personnel, c'est « self-help », s'aider soi-même. Mais c'est quand même bizarre d'aller prendre les propos de quelqu'un d'autre pour s'aider soi-même, en quelque sorte. Donc oui.
Mais est-ce qu'on ne fait pas toujours ça quand on demande un conseil à ses amis, quand on lit un roman et qu'on s'identifie à un personnage et qu'on se dit « en fait, il réagit comme ça, moi, comment j'aurais réagi dans cette situation-là, un peu inconsciemment, ça va peut-être un peu tout seul ». Est-ce que quelque part, c'est pas un besoin aussi chez les gens?
Bien sûr. Donc moi, je crois qu'il y a une part où forcément, on n'est pas des monades, on n'est pas des individus tout seuls dans le monde, on est connecté au reste. Et c'est pour ça que dans mon bouquin, j'ai essayé d'écrire le développement personnel, non pas uniquement comme un ensemble de bouquins, mais aussi comme une attitude. L'attitude de développement personnel, vous pouvez l'appliquer au bouquin développement personnel, mais j'ai rencontré des gens qui me disaient qu'ils lisaient, je ne sais pas moi, la Bible, des romans, etc., du point de vue du développement personnel. Et cette attitude-là, c'est exactement ce que vous dites, c'est une attitude qui consiste face à n'importe quoi, face à la Bible, face à la situation dans laquelle on est ici en train de faire une émission de radio, se demander qu'est-ce que ça me dit sur moi ? En quoi est-ce que ceci va me permettre de m'améliorer, d'être meilleur que ce que je suis ?
Ça rejoint, je t'en prie, Sana.
Moi, en fait, je voudrais vous poser une question par rapport justement à votre livre, pour parler vraiment de votre livre. Ouais. Déjà, une première question, est-ce que ça a été facile à éditer ? Est-ce que vos idées ont été faciles à être mises en place ? Et aussi de voir comment vous avez écrit le livre. Est-ce que vous l'avez écrit de manière générale ? Est-ce que vous l'avez écrit avec des exemples personnels ? Ou en lisant beaucoup de bouquins, parce qu'il y a vraiment une pléthore de bouquins dans les librairies ? Et donc, j'aimerais savoir ça, justement, comment vous avez écrit ce bouquin, votre bouquin.
Alors, très concrètement, j'ai écrit ce bouquin dans des conditions qui étaient un peu bizarres, parce qu'il y avait ma fille qui venait de naître, et qui donc était toute petite bébé derrière moi, en train de pleurer, comme le font tous les bébés, pendant que j'avais un casque comme maintenant sur la tête, en essayant de me concentrer un peu. Blague à part, j'ai eu la chance, ça n'a pas été difficile de le faire éditer, parce que, en fait, c'était ma thèse de doctorat, la base de ce bouquin, et cette thèse de doctorat, elle, j'avais concouru pour un prix qui était organisé par le journal Le Monde en France. Okay. Et j'ai eu la chance de gagner ce prix, et si vous voulez, ce prix c'était le fait d'être publié en quelque sorte. Ah, oui, okay. Donc j'ai pas dû aller démarcher chez différents éditeurs. Oui. Le prix c'était la publication, et je dirais que en fait ça a pas été trop difficile d'écrire le bouquin. Mais je pense que ça a été difficile de le faire de le faire comprendre. Et si je peux le dire en une phrase, je le dirais de la façon suivante. Moi, mon but dans ce bouquin, d'étudier le développement personnel comme sociologue, c'est, comme j'ai dit, de faire comme si j'étais un martien d'une société qui pourtant était la mienne. Et de se dire, mais finalement, pourquoi est-ce que les gens font ça? Pourquoi est-ce que les gens achètent ce type de bouquin? Et qu'est-ce qu'ils y trouvent? Mais ce qu'on me demandait souvent, quand je faisais des entretiens, etc., c'était, oui, mais ok, ça, c'est pas ce qui nous intéresse. Dites-nous plutôt, est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose, le développement personnel? Personne ne l'a fait encore ici, je trouve ça génial. Et je me disais, mais ça, c'est pas mon boulot. Moi, je sais pas, en fait. Mm-hmm. J'ai rencontré des gens qui me disaient, le développement personnel, ça m'a sauvé la vie, mais moi, je ne suis personne pour dire qu'ils ont tort de penser ça. Ma question, encore une fois, c'est comment ça se fait que quelqu'un peut dire qu'un bouquin écrit par quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, qui est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires, et qui leur dit « travaillez sur vous-même, écoutez votre enfant antérieur, vous avez un potentiel caché, etc. » Comment ça se fait qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui sauve des vies?
Ben, je propose qu'on vous rejoigne dans votre soucoupe de sociologue, juste après, soucoupe volante de sociologue, quoi, juste après un petit morceau de musique qu'on va... Et c'est, on va mettre maintenant pour alléger un peu, enfin pour aérer un peu l'émission. Ça s'appelle Tolar, et c'est le titre, c'est Se sortir d'un faux.
Patienté, j'ai fait passer.
Nous sommes de retour en studio sur les ondes de Radio Panique. Vous êtes à l'écoute de Psylence Radio. On parle de développement personnel en compagnie de Nicolas Marquis. Et je vous propose, pour animer encore un peu plus le débat, d'écouter la chronique de Chantal.
Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices. Le développement personnel. Toute ma gratitude va à la bonne volonté de ces auteurs qui ont su me booster grâce à leurs écrits. Certes, j'ai parfois versé dans l'adulation de ce type de lecture, mais dans l'ensemble, cela m'a été fort utile et structurant. J'entends par là des idées façonnantes avec des mots sur mes mots. Le désespoir étant le squelette de mon passé à retrouver vertèbres et repères avec pareil outillage. Là où la psychologie et la psychanalyse ont étayé la compréhension de mes émois, le développement personnel était présent dans ce combat contre la souffrance. J'ai pris le temps de compulser moult livres aux auteurs plus ou moins connus, entre les soirées psycho à la Boris Cyrulnik à la Faconde d'un Jacques Salomé, j'ai eu le temps de creuser des sujets passionnants. Cependant, cela m'a souvent amené à trop intellectualiser des choses qui n'en valaient peut-être pas la peine. De plus, je ne suis pas dupe du marketing qui va avec. À une époque, beaucoup de mes proches m'ont invité à calmer le jeu. Trop de mots, tu le ressentis.
Merci Chantal. Est-ce que quelqu'un autour de la table veut rebondir par rapport à ce qui vient d'être dit? Si personne ne veut rebondir, je rebondis. C'est mon rôle, j'ai pas le choix. Donc ce sera la question la même, la plus stupide du monde, ce sera la mienne. Moi, j'ai bien aimé quand tu parlais de marketing et je me demandé, je tire un peu à l'extrême. Je ne sais pas si c'est peut-être une vision un peu paranoïaque. Est-ce que c'est possible d'imaginer qu'il y aurait des incointances entre les auteurs qui écrivent les bouquins et, qu'un auteur qui écrit ces bouquins-là ait des parts dans une société qui vend des produits et que l'imaginaire de la publicité, il essaye de le faire rentrer dans son livre aussi.
Bien sûr. Ouais. C'est tout à fait imaginable, d'autant que c'est assumé par certains.
C'est assumé.
Si vous regardez un peu ce qui se passe aux États-Unis, où le marché du développement personnel, c'est encore largement autre chose que ce qu'on a ici, mais vous avez des gens qui développent des sociétés de développement personnel, des gens qui font des conférences dans des stades, etc., qui vendent des places extrêmement chères, qui organisent d'autres stages où on va marcher sur des braises, etc., tous ensemble.
Allumer le feu.
Allumer le feu, exactement. Il faut bien un stade pour ce genre de choses-là.
Mais parfois, on se brûle aussi.
Ouais, quand même. Et en fait, ils disent aux gens, c'est normal que vous ayez payé très cher, parce que moi, c'est mon business. Et en fait, vous venez payer pour un service et je vais vous apprendre un jour à devenir comme moi. Mmh. Donc, si vous voulez, si on va voir de l'autre côté de l'Atlantique, je pense que les accointances entre le marketing, la volonté d'aider les gens, etc., par rapport auxquels nous, on est un peu gênés aux entournures, par rapport à ce genre de trucs, là-bas, c'est complètement assumé.
C'est décomplexé complètement. Et donc, on pourrait peut-être parler d'un type d'homme idéal vers lequel tendre. Et que pour se tendre vers ce type d'homme idéal-là, il faut du fric, quoi.
Ouais, alors effectivement, c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas qu'un seul développement personnel. Hein. Vous avez un développement personnel à l'américaine que j'ai caricaturé ici très fort. Le développement personnel à l'européenne ou à la francophone, c'est un développement personnel qui se pense un peu en opposition à cette façon de voir les choses où il faut écraser, où il faut gagner un maximum de fric. C'est aussi un développement personnel qui a cette maxime selon laquelle, en réalité, le but, c'est pas uniquement de se développer soi, c'est pas uniquement d'être bien avec soi, c'est également d'être bien avec le monde. Et donc c'est une forme de développement personnel qui vise à développer le collectif. Alors est-ce que ça marche? Ça c'est une autre chose, mais en tout cas ça présente un type d'homme ou d'être humain qui est plus connecté à ses émotions, etc.
Mais en fait c'est d'être un peu le meilleur de son propre soi, de best of... d'être de soi-même un peu, c'est un peu ça. C'est vrai qu'aux États-Unis les gourous, c'est un peu ça qu'ils essayent de dire, d'être le meilleur, le top niveau, d'être pratiquement une star.
Ouais. Ken n'est pas loin de Barbie.
Oui, c'est bon. Pour moi que vous dites ça, je n'en doute pas un seul instant.
Parce qu'évidemment, les gourous arrivent souvent en limousine, ils sont adulés, ils ont leur fan club un petit peu, ils montent la starification à des sommets.
Tout à fait. En fait, le développement personnel, pour moi, d'un point de vue socio et même un peu philo, c'est une très bonne porte d'entrée pour se poser une question qui me paraît assez fondamentale, et c'est la suivante.
c'est quoi pour nous, comme société, comme individu, c'est quoi pour nous aujourd'hui une vie qui vaut la peine d'être vécue ? Et en fait, le développement personnel, c'est une ressource qui est détestée par certains et qui est adulée par d'autres, comme ça a été très bien dit, qui vise à fournir des réponses. Et si on lit le développement personnel, ce qu'on y trouve comme réponse, c'est que une vie réussie, c'est pas forcément le fait d'avoir 4 bagnoles, 3 chiens, 6 maisons, d'être super riche, super puissant, etc. Non. Une vie réussie, selon le développement personnel, c'est une vie dans laquelle vous vivez, comme vous le dites très bien, au maximum de vos possibilités. Vous êtes pas uniquement dans un bien-être, vous êtes perpétuellement à la recherche d'un mieux-être. Dans le développement personnel, il y a cette idée quelque part que votre vie, elle est réussie à partir du moment où vous vivez en concordance avec ce qui se trouve, hypothétiquement, moi je ne suis pas sûr que ça existe, mais bon, à l'intérieur de vous-même. On aurait chacun, quelque part, ce potentiel caché, et il s'agirait finalement de ne jamais se fermer aucune porte.
Est-ce que ce n'est pas, sur ce principe-là, antithétique au bouddhisme qui dit donc de laisser venir les pensées, les sensations, de les laisser passer et de... Et quelque part, à un certain moment, on va juste être heureux d'avoir le besoin de manger, d'avoir tout ça. Et là, ça me paraît être une conception qui est très forte, proactive, par rapport au bien-être, au bonheur, qui... Enfin, voilà.
Non, tout à fait, vous avez tout à fait raison. Donc, c'est une défense de l'action. Et il y a une histoire bizarre entre le développement personnel et le bouddhisme. Hein. Donc, le bouddhisme que vous retrouvez dans le développement personnel, moi, je ne suis pas un spécialiste de ces questions-là, mais c'est quand même un bouddhisme qui est fortement européanisé, c'est-à-dire un bouddhisme qui est mis à la sauce du service de la réflexion sur soi, de l'activité sur soi, etc. Alors que pour ce que j'en comprends, le bouddhisme basique, c'est plutôt une forme de tentative de se connecter aux choses telles qu'elles sont, dans lequel on fait justement abstraction du moi, du soi, et de ce genre de choses qui polluent en quelque sorte notre rapport au monde.
Mais est-ce qu'une vie réussie, c'est pas... tu voulais parler ? Non,
je parlerai après. Mais ce que je me demandais, c'est... À partir d'où il faut faire le deuil de soi, de son idéal ? À partir d'où il faut faire ce deuil-là ? Et à partir d'où il faut quand même mener des actions, débloquer son potentiel, etc. Où est la limite, en fait ? C'est ça que je me pose comme question.
Mais disons que je pense que c'est des équations qui sont hyper compliquées et qui dépendent de chacun. Maintenant, c'est vrai que si on regarde encore une fois la société dans laquelle on est et ce qui se passe dans les domaines qui m'intéressent un peu, moi je m'intéresse beaucoup au domaine de la parentalité, des soins de santé mentale, etc. Pour le moment, on voit qu'une notion qui prend beaucoup de place aujourd'hui, c'est celle de projet. Il faut un projet pour tout. Il faut un projet parental, il faut un projet éducatif, un projet scolaire, un projet de soins, un projet etc., etc. Bref, on n'en sort pas. Et pour, finalement, une question que je me pose, c'est pourquoi cette notion de projet, elle a une telle place aujourd'hui ? Et je pense que c'est pas sans lien avec tout ce dont on discute sur le développement personnel. C'est que cette notion de projet, on la met en avant parce qu'aujourd'hui, on pense qu'il est possible de continuer à vivre et à avancer sans se fermer trop de portes. Que finalement, le futur est toujours ouvert et que quelque part, on ne devrait jamais renoncer à nos rêves, à nos idéaux, etc. Je ne sais pas si vous vous rappelez le film, dont j'ai oublié le titre évidemment, mais avec Omar Sy et François Cluzet, sur une personne en situation de handicap. C'était un bon exemple de ce genre de truc-là. C'était la personne handicapée qui dépérit petit à petit, etc. Et puis qui finalement retrouve goût à la vie. Alors bon, c'est un handicapé qui a plein de fric, donc c'est pas très très compliqué pour lui de faire du deltaplane et ce genre de choses-là. Mais qui, quelque part, n'abandonne pas et ne fait le deuil de rien, en quelque sorte. Et ça, je pense que c'est un peu notre idéal, ou l'idéal qui est porté par la société.
Est-ce qu'on ne va pas ployer sous le poids de cet optimisme ? Ça, moi, je n'en sais rien. Et en tout cas, c'est maintenant les slams de Mireille.
J'ai trop mangé. Mangé jusqu'à la nausée, jusqu'à m'en dégoûter. J'ai bouffé des soucis et des soucis. J'ai dégueulé mes plaines. Je me suis nombrilisée, je me suis vidée de ma boue. Et les angoisses ont arrêté de vivre, comme s'il n'y avait qu'elles dans mon unité. J'ai arrêté de les alimenter. Aujourd'hui, je suis là, je m'allège. Je laisse les tracas sur la branche. Mais ils ne restent pas. C'est ici chez moi. Il s'envole. Je suis heureuse de ne plus être ce lourd fardeau habitation enchaînante, mais plutôt la maison vagabonde, qui avance et apprend. Mon regard jugeant, je le laisse se détendre. Laissez-le, il en a besoin. Nous sommes tous un peu victimes de nous-mêmes. Soyons bienveillants. Je me surprends à relativiser, à oser jouer, à balader ma vie à ce qu'il anime, à créer. Ma vie s'allège. Ce moment est insouciant. C'est une qualité de ne pas toujours creuser jusqu'à s'enterrer. Je tends l'oreille vers mon cœur. Je cherche à être au diapason. J'expérimente le son. J'existe. J'existe. Je me risque. Parfois, j'ai envie de m'excuser. Allez, viens, je vais tout avouer. Mais est-ce que ça te regarde? Tu sais, je suis sur mes gardes. J'ai débordé sur le coloriage de la vie. J'ai même fait un gros gribouillis, juste comme ça, pour le plaisir, parce que j'en avais envie. Puis j'ai crié, tout déchiré, comme une abrutie. Parfois, je trottine tel un cheval. Je saute les obstacles un par un, je cavale. Je me sens pousser des ailes, c'est génial. Puis d'un coup, je freine. Je bride l'animal. S'il suffisait de respirer, et parfois de s'entraider, de s'écouter. Pour ça, il faut s'ouvrir comme une fleur, jusqu'à ce qu'il soit l'heure de tout quitter. Je peux exister sans mériter? Qui je suis? Je suis désolée si je t'ai perturbée. Victime? Bourreau qui a faim? On l'est tous un peu pour quelqu'un. J'essaye de me positionner, mais l'allure, stressée, ma météo rageuse ne veut pas me quitter. Se placer entre originalité et neutralité. Au fond, où ai-je ma place? Bizarre, trop, pas assez. La vie, c'est un peu se chercher. Exister, c'est risquer de tout déchirer. Je tourne en rond dans ma tête. Où est la sortie? Nuages, pluie, orage, je vous dépose ici. Je vais dans mes réserves. Problème, tu m'alourdis. Je cherche une éclaircie. Tu peux tourner dans mon bocal, tout doucement, sans faire de bruit, comme un mini poisson nageant en rond. Tourment, tourment, tu me démanges, ne rien penser, je veux ne rien penser, me reposer. De l'harmonie, est-ce possible ici, à l'intérieur de ma vie? Tempête de soucis, tracas, je vous laisse voler en éclats. Dose, j'ai besoin de ma dose de sécurité, intérieure, extérieure, existe-t-elle? La vie est parsemée d'obligations, interdictions. Direction, au-dessus de ma tête sont suspendues 1000 questions, telles des étoiles dans le ciel, qu'elles puissent voler dans l'obscurité et me ramener à la légèreté.
Oh. Merci beaucoup.
Merci. Merci Mireille.
Très beau. Je ne sais pas si ça vous a inspiré des choses, Nicolas Marquis, ce texte, ou si on repart sur des questions plus traditionnelles ou quoi.
Oui, je trouve ça très beau. Ouais, vraiment.
Moi aussi, je voudrais vous poser de nouveau sur votre livre, un petit peu, comme vous êtes sociologue, justement.
Ouais, ça arrive à des gens bien.
Oui, c'est justement. C'est ça. Et donc, vous avez écrit un livre, mais c'est pour faire, dans le but de faire une étude sociologique, pour marquer le coup, ou bien justement, pour aider vos amis ou votre famille, ou voilà, pour aider peut-être des personnes. Est-ce que, voilà.
C'est une très bonne question. Non, le but de la sociologie, c'est jamais, en tout cas ça ne doit jamais être de mon point de vue, un but thérapeutique. Ça peut devenir thérapeutique si les gens s'en saisissent comme ça, mais moi c'est pas comme ça que je vis mon boulot. Mon boulot, il est d'écrire et de mieux comprendre des phénomènes sociaux, par exemple le développement personnel, qui sont très proches de nous, en se demandant comment ça se fait que ça peut exister. Alors encore une fois, après, bon, vous savez, quand vous écrivez un bouquin, ou quand vous écrivez un article, ou quoi que ce soit, on ne sait jamais trop comment les gens vont lire, et moi j'ai eu affaire, si vous voulez, à des gens qui étaient très positifs, et aussi à des gens qui étaient très négatifs. Les gens qui étaient très positifs, ils trouvaient que j'avais trouvé un ton juste, etc. Des gens qui étaient très négatifs, ils m'ont dit soit que je tenais trop avec le développement personnel, soit au contraire que j'étais beaucoup trop critique par rapport au développement personnel. Et c'est là parfois je me dis, ok, quand on vous critique
pour des raisons qui sont totalement opposées, c'est que vous avez trouvé normalement un bon juste milieu.
Donc, ce qui veut dire que vous avez eu un retour des lecteurs par rapport à votre bouquin
J'ai eu un retour de quelques lecteurs. Si vous voulez, les retours les plus fréquents que j'ai eus, c'était surtout des retours de gens qui n'aimaient pas trop le développement personnel et qui, je pense, voulaient voir en moi un allié dans leur croisade visant à dire que le développement personnel, c'était pas forcément une bonne chose. Moi, de mon point de vue, enfin, j'ai tout à fait mon avis par rapport au développement personnel. Quand j'ai fait mes entretiens avec les lecteurs de développement personnel, il y en a qui pour moi étaient vraiment beaucoup plus pénibles que d'autres. Par exemple, un truc qui me pose question dans le développement personnel, et ça a été dit en introduction, c'est que souvent ça manque d'humour. Et pour moi, l'humour, c'est un truc essentiel dans la vie. Il y a aussi parfois cette fascination pour la disparition du malentendu, comme si c'était possible que, en communiquant bien, etc., ben, on allait enlever tout malentendu entre êtres humains. Mais pour moi, le malentendu, c'est un peu aussi ce qui fait le sel de la vie. Et l'humour et le malentendu, ben, c'est quand même pas très éloigné. Donc voilà. Mais mon but, c'est clairement pas d'aider les individus, si ce n'est à se faire eux-mêmes leur propre opinion sur le développement personnel. Ça, oui, ça, je le revendique.
Oui.
Nous, pendant la préparation de l'émission, on a aussi pensé, quelqu'un nous a parlé de ça, en fait, que le concept de résilience en psychiatrie arrive à la même époque que le développement personnel. Et donc, je voulais un petit peu lancer la conversation là-dessus, si des gens autour de la table ont envie de parler de résilience. Pascal, peut-être ?
Je voudrais juste la définir, peut-être, parce que c'est vrai que c'est un terme qui est souvent mal défini. Ici, c'est la, je pense, oui, c'est ça, c'est le concept de résilience expliqué par Boris Cyrulnik, donc qui a travaillé beaucoup, et il dit donc la résilience, c'est l'aptitude d'un corps à résister aux pressions et à reprendre sa structure initiale. Alors en psychologie, c'est la résilience, c'est la capacité à vivre, à réussir, à se développer en dépit de l'adversité. Donc, en psychologie, c'est ça. Donc, après un traumatisme, je pense, c'est reprendre forme, reprendre des couleurs.
Et en politique, comment fait-on pour résister à l'adversaire ?
On lui fait une clé de bras, je sais pas, des choses comme ça. Non,
en tout cas,
c'est un peu l'ambiance pour le moment.
Il y a un point commun entre la psychologie dont tu viens de parler au niveau de la résilience et le développement personnel, c'est ce terme de réussite.
Ouais.
Et moi, là, je parle d'une idée qui m'est propre, quoi. C'est que pour moi, ça ne veut rien dire une vie réussie, quoi.
Ouais, ouais.
Pour moi, quand quelqu'un me dit j'ai réussi ma vie, ça va pas me rendre ébahi ou, enfin, est-ce qu'il y a des vies plus réussies que d'autres? Je veux dire, c'est un point de vue aussi tellement occidental centré.
Je suis pas d'accord avec ça du tout, parce qu'en fait, pour moi, c'est super important de réussir sa vie. Et réussir sa vie, pour moi, c'est pas du tout avoir une maison, des enfants, des chiens, des machins, etc. Ou un bon boulot ou quoi que ce soit. C'est même pas d'avoir réussi à répondre à des questions existentielles ou philosophiques ou quoi. Mais, si, quand même. C'est d'avoir répondu à qu'est-ce que j'ai fait de ma vie et est-ce que je suis satisfait? Voilà, par exemple, moi, j'y ai beaucoup réfléchi ces dernières années. Et à quoi je suis arrivée, c'est que j'ai passé mon temps à essayer à être dans de la résilience et je n'ai pas perdu mon temps. Mmh. Voilà. Et si je n'ai pas perdu mon temps, alors oui, je pense que ma vie est réussie, même si elle est souffrance, quoi.
C'est vrai que dans la réussite, la réussite, c'est aussi c'est réussir ses objectifs, c'est réussir à atteindre un certain bonheur dans ce qu'on recherche justement, c'est aussi d'utiliser peut-être son potentiel au mieux, et donc c'est ça, c'est une recherche de bonheur qui peut être aussi important, même si on n'est pas toujours heureux, mais c'est aussi important dans la vie.
Mais si vous regardez ces bouquins, par exemple, ceux de Cyril Nick, c'est quelqu'un enfin, voilà, que j'ai rencontré, qui m'a aidé dans le cadre des entretiens et des lettres de ma thèse, etc. Il ne va pas vous dire que forcément vous devez être heureux, ni que vous devez réussir, ni quoi que ce soit. En fait, la résilience, la raison pour laquelle cette idée a tellement de succès à l'heure actuelle, je pense que c'est parce qu'elle est, si vous voulez, l'expression la plus claire du développement personnel dont on parle. Qu'est-ce qu'elle dit, la résilience ? Vous avez donné la définition tout à l'heure. Elle dit, non seulement il est possible d'être pas trop mal, voire d'être heureux malgré le malheur, voire même, il est possible d'être heureux grâce à votre malheur. C'est oui, ça. Si vous regardez le bouquin de alors on n'est pas obligé d'être d'accord avec ça, mais le bouquin de Cyrulnik, en tout cas l'un de ceux qu'il a lancé, son titre c'est « Un merveilleux malheur ». Il y a cette idée quelque part que les personnes résilientes, ce sont des personnes un peu comme l'alchimiste dans les temps anciens, qui réussissait à transformer le plomb en or. C'est quelqu'un qui réussit à transformer la pire des choses qui puissent lui arriver, une catastrophe intime ou un problème de santé ou quoi que ce soit, en quelque chose. Vous avez utilisé cette expression, j'ai pas perdu mon temps. Eh bien, c'est ça, c'est utiliser quelque part ce qui vous arrive, ne pas rester simplement victime par rapport à ça, mais le mobiliser pour, eh bien, vous développer, pour aider d'autres personnes, pour vous-même devenir un témoin pour d'autres personnes qui peuvent connaître le même problème que vous, mais qui n'en sont pas au même niveau de réflexion que vous, etc. Et donc, c'est quelque part toujours parvenir à récupérer une marge de manœuvre, une zone d'activité sur un malheur dont vous n'êtes pas uniquement victime.
Mais alors, ce que vous venez de dire, c'est une question aussi qu'on s'est posée en préparant l'émission, c'est donc on surpasse un malheur, on en fait quelque chose pour du bonheur. Et alors, on a un discours par rapport à ça, et on le partage aux autres, et où est la limite du prosélytisme, en fait, voilà, où est la limite du prosélytisme dans ce genre de démarche, quoi.
Ouais, eh bien, pour moi, il n'y a pas de limite avec le prosélytisme. C'est-à-dire que, si vous voulez une anecdote, moi, il y a des entretiens que j'ai fait avec des lecteurs de développement personnel qui m'ont vraiment fatigué, pas tous, hein, bien au contraire, mais ceux qui m'ont fatigué, c'est ceux qui, dans lesquels je sentais bien que les personnes voulaient me convaincre que la bonne solution était de leur côté. Moi, si vous voulez, mon avis personnel par rapport à ça, c'est que, grosso modo, ben voilà, c'est facile pour personne, c'est peut-être moins difficile pour certains que pour d'autres, mais qu'en gros, chacun s'en sort un peu comme il veut et comme il peut. Là où je commence à avoir des problèmes, c'est quand certaines personnes considèrent que, parce qu'elles-mêmes estiment s'en être sorties, une partie du fait d'aller mieux pour elles consiste à venir dire aux autres « Oui, mais voilà comment tu devrais faire. »
C'est hyper fréquent.
Ouais, c'est hyper fréquent, mais pourquoi est-ce que c'est hyper fréquent ? C'est parce qu'aujourd'hui, ben, regardez ce qui se trame un peu dans les mondes de la santé mentale, etc., on considère que l'expression de soi est en soi quelque chose de thérapeutique. Et donc, on invite les personnes à s'exprimer, on invite les personnes à raconter.
Le storytelling.
Voilà, le storytelling, faire le récit de soi avec cette idée que le témoignage, hein, que puisque vous avez vécu éventuellement un malheur, je sais pas, un problème de santé ou quoi que ce soit, mais c'est quasi votre devoir d'être humain de témoigner pour aider d'autres personnes qui sont dans cette situation-là.
Moi, je suis assez d'accord avec ça. Je crois que le témoignage a une place très importante dans le fait d'être bien, etc. Mais est-ce que le fait de peut-être d'être un peu trop absolutisé, le témoignage fait qu'on évacue complètement les causes politiques, sociales, économiques des difficultés dans lesquelles on se trouve peut-être tous, et le témoignage c'est comme quelque chose d'individuel, et si on se dit c'est des questions que je me pose. Oui, Chantal.
Pour ma part, le témoignage de Viktor Frankl me parle énormément par rapport au sens donné à la vie. Et avoir été à la naissance de la... Enfin, Viktor Frankl, pas moi, de la logothérapie, je trouve que c'est un type de développement personnel qui a encore plus de poids que le marketing du développement personnel en lui-même.
Mmh. Mais bon, Viktor Frankl, c'est un témoignage, mais c'est quand même un témoignage assez expert.
Tout à fait, il est lui-même psychiatre.
Voilà, exactement. Alors je ne dis pas qu'il y a les experts qui ont le droit de parler, les autres pas du tout, bien au contraire. Mais simplement, aujourd'hui, du fait aussi des technologies, des réseaux sociaux, etc., le témoignage, c'est un truc qui s'est fortement démocratisé. Ça veut dire que tout le monde peut produire un témoignage. Alors, ça a des très bons côtés, mais ça a aussi des côtés qui sont un petit peu plus compliqués, comme celui que vous rappeliez à l'instant, à savoir que le témoignage est sanctifié aujourd'hui. Quand quelqu'un fait un témoignage, on ne peut plus toucher à ça. Parce que si on touche à ça, si on le critique, c'est comme si on attaquait l'essence même de la personne. Et donc, c'est vrai que ça place quand même les discussions à un niveau qui est extrêmement individuel. Hein. Ce que j'ai vécu... je vous le dis comme ça, voilà, je vous le balance et à la limite, ça vous plaît, ça vous plaît pas, rien à dire, c'est ce que j'ai vécu. Mais est-ce que c'est pas quelque chose qui, à terme, ou si on pousse cette logique jusqu'à son bout, nous isole chacun les uns des autres en disant, bon ben voilà, vous c'est votre vécu, moi c'est mon vécu, et ben voilà, c'est tout, c'est comme ça, c'est terminé.
Et puis qu'est-ce qu'on a à se dire aussi qu'est-ce qu'on a à se dire? Est-ce que je vais mal, même d'un point de vue psychologique, psychiatrique, de santé mentale, parce que mon histoire personnelle et mon parcours personnel m'ont amené à rencontrer telle ou telle circonstance qui me sont propres, et voilà, ou ouais, je ne sais pas, tiens, comment tu ressens, toi, les médias, leur discours, comment tu ressens, enfin, je ne sais pas, d'un point de vue de sociologue, peut-être que vous avez des études qui font les pendants justement de ce type de discours fort individualisé et qui sont des discours plus collectifs dans leurs prémices, quoi. Peut-être que vous avez des pistes par rapport à ça.
Ouais, alors... Moi, je pense qu'on est dans un monde où on parle beaucoup de l'individu. Et si on parle beaucoup de l'individu, c'est aussi parce que, contrairement peut-être aux générations précédentes, on est un peu désabusé par rapport au collectif. Hein, la politique, les syndicats, etc. Quand vous parlez de ça aux gens, et ils lèvent les yeux au ciel en se disant « tous pourris » ou bien « ça marche pas », etc., etc. Et donc, le problème aujourd'hui, c'est que on utilise même le développement personnel pour penser l'action collective, c'est-à-dire ne vous investissez pas en politique, dans les syndicats, de toute façon tout ça, ça sert à rien. Par contre, essayez de lancer un mouvement à partir de vous-même, où vous allez commencer à travailler sur vous-même, et puis travailler sur vos enfants, et puis trier vos déchets, etc. Et puis quelque part, de façon un peu magique comme ça, le monde va se mettre à changer. Encore une fois, est-ce que ça fonctionne? Moi personnellement, je ne suis absolument pas convaincu, mais c'est un discours qui aujourd'hui a du succès.
Mais c'est vrai que maintenant on est de plus en plus dans, justement, vous parliez d'autonomie individuelle, justement c'est poussé, j'ai l'impression, ces dernières années dans une sorte de paroxysme à cause de ces raisons ou pour ces raisons pour ces réseaux sociaux, justement, où l'individu est poussé au maximum. C'est comme si on prenait une loupe, moi je, et donc c'est vrai qu'il y a ça là maintenant, même dans ce développement personnel, de dire moi je veux exister pour moi-même d'abord, après peut-être pour les autres, mais maintenant c'est vrai que maintenant on est dans une société où le moi est beaucoup plus
Oui, c'est le moi-moi, et en même temps, vous parlez de réseaux sociaux, etc., ça montre quoi? Ça montre que ce moi-moi, il ne peut exister que s'il y a d'autres qui regardent ce moi-moi, qui lisent mes petits messages, qui font des likes, voilà, qui me mettent des petits cœurs, des trucs comme ça. Sinon, je peux dire des choses très intelligentes, etc., si personne ne me lit, je n'existe pas. Et donc, c'est vrai que, quelque part, ça nous rappelle cette tension qui est fondamentale et que je pense qu'on vit tous, tous les jours, qui est que à la fois on est dans une société dans laquelle une vie réussie, c'est une vie dans laquelle on a acquis une autonomie, dans laquelle on prend une série de décisions, dans laquelle on est en concordance avec notre intériorité, qu'on l'exprime, etc. Mais en même temps, ce moi-moi, on attend perpétuellement qu'il soit validé tout le temps par les autres. Et ça, c'est le boulot d'une vie, quoi.
Je pense qu'à l'origine, une des origines de l'idée du changement permanent, et dans son postulat plus constructif, je pense à la phrase de Gandhi, « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Là, il s'agit clairement d'une idée qui a été issue d'une personne qui a fait un grand bouleversement politique et international. Or, voilà, est-ce que nous ne venons pas maintenant à un stade où nous sommes dans le culte du narcissisme?
Alors c'est une très grande question à laquelle je vais demander une petite réponse parce qu'on doit encore caser quelques chroniques des gens ici autour de la table.
Donc, le développement personnel, à la différence de Gandhi ou d'autres, analyse le changement du monde à partir du changement des individus. Je pense que Gandhi, c'était le contraire. C'est-à-dire, tu veux changer le monde, il faut que tu sois en concordance avec le spectre politique que tu engages.
Merci. Et on va passer à l'histoire de Sana.
Aujourd'hui, je vous ai écrit une petite histoire. Les trois portes. Un soir, alors que je me promenais par une belle nuit étoilée, je vis devant moi trois portes bien distinctes de couleur blanche. Je restais intrigué. Pourquoi ces portes posées là ? Je m'approchais doucement. Le blanc semblait réfléchir un maximum de lumière. Elle brillait dans le noir. À côté d'elle se trouvait une boîte transparente avec une clé à l'intérieur. Intrigué que j'étais, j'ouvris doucement la boîte et pris la clé. Elle était de couleur argent, de poids assez léger. Je jouai avec cette clé pendant un instant, puis je m'approchis de cette porte qui semblait me narguer. Au moment où je voulais introduire la clé dans la serrure de la porte, une voix sortit de nulle part et murmura « Choisis bien ta porte, elles sont sacrées. » La première, c'est la porte amour. La seconde, richesse. La troisième permet la jeunesse éternelle. Fais le bon choix, tu n'en auras qu'un. Il déterminera le reste de ta vie. Amour, jeunesse éternelle et richesse. Que choisir ? Pendant que je réfléchissais, je faisais jouer la clé dans mes mains. Amour, oui, j'étais seule. Aimer et être aimée, quel bonheur. Mais il y a aussi le risque que ça s'arrête un jour. Mais parfois, le jeu en valait la chandelle. La richesse. Oui, avoir ce qu'on veut, c'est très bien. Ne manquez jamais de rien. Sans parler de la jeunesse éternelle. Ne jamais vieillir. Être la même éternellement. Ne pas voir son corps changer. Subir les affres du temps. Les trois propositions sont séduisantes, mais je n'ai droit qu'à une seule chance. Pendant qu'elle jouait avec la clé, elle ne se rendit pas compte d'une présence. Un homme d'un certain âge était derrière elle. Il lui arracha brusquement la clé des mains et commença à courir. Elle voulait le poursuivre, mais il tomba rapidement. La clé volta dans les airs un instant. Je retins mon souffle et elle finit par tomber dans une bouche d'égout. Elle se retourna pour voir les portes qui disparurent en même temps que la clé, qui fut engloutie dans les entrailles de la terre.
Merci beaucoup, Sana.
Bravo. Sana.
Et sans transition, on passe à toi, Pascal, pour ta rubrique « Lu, vu, entendu ».
Alors, « Lu, vu, entendu », j'ai d'abord j'ai lu, hein, j'ai lu un livre qui s'appelle « Le funambule au fil de l'humeur quotidien bipolaire ». L'avant-propos est signé Ludivine Sagnier, qui est la marraine de l'association, dont le but est d'améliorer le bien-être des personnes vivant avec un trouble bipolaire et celui de leurs proches, cela en offrant des cadres pour s'entraider. Ludivine Sagnier est une actrice française qui a été révélée début 2000 par François Ozon. Elle a intégré les groupes de parole du funambule afin d'être au plus près de ce qui lui manquait pour jouer, donc c'est-à-dire l'humanité derrière tout ça, derrière la vision théorique et médicale de la maladie. Alors on l'a vu dernièrement, Ludivine Sagnier, c'est une parenthèse dans le film de Véronique Krasborn, La forêt de mon père, où elle joue la femme de Jimmy, un être imprévisible et fantasque. Et pour nous, je crois que c'est une autre façon, un autre regard à accueillir sur la souffrance, sur la psychiatrie, c'est le regard des proches. Voilà. La préface est d'Hélène Gabert. Hélène est la co-autrice d'un livre à succès sur le vécu bipolaire. Son titre, J'ai choisi la vie. Hélène a été très impliquée au funambule. Alors, c'est un livre où la parole est donnée, est laissée aux participants des groupes, et vous aurez droit à un petit conte pour commencer, des récits, ensuite des poèmes, des témoignages de proches aussi, des récits de psychoéducation et de père aidance. Et pour aller plus loin, on a aussi les articles de psychiatres importants pour le funambule, à savoir article du docteur Souhiri de Bruxelles et de Laurence Geniaud de Charleroi. Alors, au fil de l'humeur, quotidien bipolaire coûte 18 euros. Il est édité par Chronique Sociale Édition. Et je pense qu'il est, qu'on peut l'acheter à la FNAC. En tout cas, je vous en offre un exemplaire, en fait. Voilà. Silence Radio va vous offrir un exemplaire d'Au fil de l'humeur, dont vous pouvez appeler au 0 486 65 07 31. Alors, on fabrique des patients psychiatriques à la chaîne. On passe à autre chose. La petite phrase d'un psychologue qui a été reprise par le Vif Express n'est pas tombée dans l'oreille d'une sourde, puisque depuis les confinements, déconfinements, les urgences psychiatriques bruxelloises n'arrêtent pas de bosser. Les mises en observation ont doublé, voire triplé ces derniers mois, et ces usagers sont imposés dans les services, surchargés, ce qui pose des problèmes, par exemple, d'agressivité. Un usager imposé, un patient, c'est un autre qui s'en va trop tôt, souvent. Alors, la situation pour les psychiatres bruxellois qui travaillent avec les mises en observation, les services d'urgence, cette situation devient donc incontrôlable et ils ont lancé un cri d'alarme, un appel au secours dans une carte blanche qui date déjà un peu puisqu'elle date du 30 juillet de cette année. Donc la situation maintenant est encore difficile, mais on suit le dossier, donc j'espère pouvoir vous donner des nouvelles le mois prochain.
Bah, ce serait très intéressant, on attend ça avec impatience. Et maintenant, on passe à la dernière chronique de l'émission, un petit horoscope de Chantal.
Astro, les étoiles se développent aussi. Bélier, une séance de step s'impose pour toi, ô Bélier, qui a tant besoin d'expulser la négativité dont tu n'as guère envie. Taureau, mangez bio et chantez comme une opérette car tu respires le bonheur du haut de ta verte prairie. Gémeaux, vite à la bibliothèque, l'esprit est toujours en poupe. Cancer, avant de couler trop profondément, pense à dessiner tes émotions. Lion, nettoie bien ton miroir pour mieux faire briller ta loge ou ta cage. Vierge, revisite ton agenda pour fignoler tous les détails de ta life ô combien structurée. Balance, faire le poids pour plaire au monde entier, voilà ce qui te pèse. Va à Lourdes. Scorpion, l'autoconstruction crée un cercle vertueux. Oui, la joie existe aussi parfois. Sagittaire, il s'agit de se taire pour méditer sur plus d'intériorité. Capricorne, chère biquette, gravis la montagne d'une patte alerte et trouve la légèreté qui manque à ton quotidien. Verseau, tu peux planer en lisant du Jules Verne, un allié sûr. Poisson, courage, affronte et oublie de boire ce dernier verre qui illusionne ta route.
Merci Chantal.
Merci Chantal, et l'émission est terminée. Donc on va vite rappeler en vitesse donc le titre de votre livre, Monsieur Nicole Marquis.
Du bien-être au marché du malaise.
Voilà, au PUF, c'est ça. Très bien. Et donc vous pouvez nous réécouter en podcast sur la page Silence Radio du site Radio Panique et sur les ondes. Une rediffusion est prévue le 2e février du mois. Le deuxième vendredi, pardon, du mois à 19h. On espère que ça vous a plu et passez une très bonne soirée.
Merci.
Merci.
Bravo. Bravo.